10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Beurre FM, alors est-ce que mon micro fonctionne? Oui, c'est tous les vendredis sur Beurre FM, 10h, 11h, 1h pour parler d'islam. Aujourd'hui, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous. Bonjour, l'imam Abdelali.
Bonjour, Philippe. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux.
Meilleurs vœux.
Oui, et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année, Inch'Allah, plein de succès à toi, mais à tous ceux et à toutes celles
qui nous écoutent
voilà. Sur Beurre FM et même les autres. Allez, on va pas être égoïste.
C'était une bonne année à ceux qui nous écoutent pas, vous.
Oui, pourquoi pas. Allez, faut pas. La miséricorde divine et la générosité de Dieu n'a pas de limite. Khaza'inullah ila tanfad. Falimada nabkhal. Pourquoi être égoïste alors que Dieu ne l'est pas?
Tiens, Imam Abdelali, pour tous ceux qui sont en train de s'organiser et qui organisent leur emploi du temps en début d'année, vous organisez très prochainement une Omra, donc là c'est pour les vacances de février.
Hein. Oui, c'est les vacances de février, c'est un combiné avec Jérusalem. Donc pour la première fois, Inch'Allah, j'ai décidé d'aller faire un tour là-bas en Palestine pour aller visiter ce troisième lieu saint recommandé par notre prophète Mohammed alayhi salatu salam, dans lequel il dit « La tushad rihal illa ila thalathi masajid ». Il n'est permis de voyager pour accomplir un pèlerinage que seulement vers trois lieux saints, vers trois mosquées. Il dit donc Al-Masjid al-Haram, la mosquée de la Mecque, ou Al-Masjid al-Aqsa, en deuxième position il cite la mosquée de Jérusalem, ou Al-Masjid al-Hada, et cette mosquée dans laquelle je suis, c'est-à-dire à Médine. Donc ces trois mosquées-là peuvent faire l'objet d'un rite de pèlerinage et d'une visite. Le prophète, dans d'autres hadiths, évoque les mérites d'aller à Jérusalem, ne serait-ce que pour y allumer une cierge, d'allumer une lumière, une lampe, pour éclairer les fidèles qui pratiquent et qui font la prière dans la mosquée.
Alors, pour les dates, Imam Abdelali.
Alors, normalement, c'est le 9 février jusqu'au 23. Donc, on a trois jours pour Jérusalem.
Ça fait deux semaines, quand même.
Ah, c'est parce qu'il y a Jérusalem.
Oui.
Il faut aller d'abord à Istanbul pour descendre à Tel Aviv. Tel Aviv, on va à Al-Quds. Parce qu'on va passer par l'intérieur du territoire.
En fait, Paris-Istanbul en direct. Istanbul-Tel Aviv.
Tel Aviv, Quds en bus.
Ouais.
On reste là-bas deux jours. Donc ensuite, on revient à Tel Aviv. On reprend l'avion vers Istanbul. D'accord. Et là-bas, je récupère d'autres pèlerins qui, eux, n'ont pas pu venir parce qu'ils sont de nationalité algérienne.
Qui font juste la Omra.
Ils font juste la Omra parce qu'ils auraient voulu pouvoir y aller, mais ils ne peuvent pas rentrer.
Pour les questions de passeport, oui.
Voilà. Ils ne peuvent pas rentrer en Palestine, ni en Israël, ni nulle part. Donc eux vont faire que la Omra avec moi et je les récupère à Istanbul et là on repart pour Médine et la Mecque, bien sûr pour le voyage classique, 4 jours à Médine et 6 jours à la Mecque, donc pour un total de 14 jours en tout. Voilà, c'est un magnifique voyage que je vous propose. Donc ceux qui sont intéressés, ils peuvent m'appeler au téléphone, hein, comme d'habitude, pour poser leurs questions ou pour s'inscrire à ce voyage au 06 29 25 35 00, je répète, donc 06 29 25 35 00. Attendez quand même la fin de l'émission pour m'appeler, parce que sinon là, ça va être compliqué de répondre en même temps.
Allez, on commence cette émission avec une citation, la citation du jour, Imam Abdelali. Et aujourd'hui, c'est une devinette du prophète à ses compagnons.
Oui, alors pour rester dans le thème des créations de Dieu, des créatures de Dieu, et de la méditation de ce que doit le musulman avoir vis-à-vis de la création de Dieu, mais en même temps, dans le souci de respecter la nature, de respecter la volonté de Dieu, de transmettre aux générations suivantes l'héritage que nous ont légué nos parents. Je parle de la Terre, de la planète Terre et tout ce qu'il y a dedans, et le ciel aussi. Le ciel et la Terre, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes. On a la dernière fois évoqué l'arbre, la question des arbres. Donc l'importance de préserver les arbres, de ne pas tout bétoniser et de détruire et de
bétoniser, déjà, je suis pas sûr.
Ouais, bétoniser.
Ouais.
Bon, ça passe. Mais ouais. La déforestation, comment on dit le verbe?
Déforester.
Déforester. Là, c'est français.
Bon, c'est indonésien.
D'accord.
La déforestation, c'est très indonésien. Ça, je peux vous dire que.
Salamat.
Ouais, on dit pas salamat la déforestation, puisque ça fait partie des endroits qui sont en train d'être énormément déforestés.
Et notamment
vers Sumatra.
Du côté de l'arbre de palme.
Oui, oui, c'est des palmiers qui servent à la production de l'huile de palme, notamment.
Pour faire du Nutella, c'est ça?
Entre autres.
D'accord. Donc oui, l'idée de parler de ça, c'est bien entendu, en plus de parler de la dimension spirituelle, aussi de parler de la dimension de noblesse de caractère vis-à-vis de la création de Dieu, et de ne pas être des pollueurs excessifs, sur cette terre et de ne pas être source de destruction de la nature.
Alors, quelle est la devinette du prophète?
Alors, un jour, le prophète est entouré de ses compagnons et parmi eux, il y a un petit compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Omar. C'est le fils de Omar al-Khattab. Omar al-Khattab, lui aussi, est présent avec Zubair, donc les shuyukh, les vieux sages des premiers temps de l'islam, les premiers convertis à l'islam, ce qu'on appelle al-mubashsharin bil-jannah, ceux dont le prophète a annoncé qu'ils allaient au paradis de leur vivant. Il leur a dit, toi, tu vas au paradis. Il leur a dit par Ma Talha, il l'a dit à Zubair, il l'a dit à Abu Bakr, il l'a dit à Omar, il l'a dit à Uthman, il l'a dit à Ali, il l'a dit à Saïd ibn al-As, il l'a dit à Saad ibn Abi Waqqas, il l'a dit à Abdurrahman ibn Auf. Voilà, c'est ces 10 compagnons-là. Il est entouré de ses compagnons. Et parmi eux, il y en a un qui s'est incrusté, c'est le fils de Omar, il s'appelle Abdullah ibn Omar. Et il leur fait une demi-lettre, il leur dit la chose suivante. Il y a parmi les arbres un dont les feuilles ne tombent pas. Elle est comme le musulman, plutôt comme le croyant. La traduction, ils ont mis musulman. وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُؤْمِنِ. Le vrai terme, c'est mu'min. Dites-moi quel est cet arbre. Donc, il leur pose une devinette, il leur dit, dites-moi quel est cet arbre dont les feuilles ne tombent pas. Les gens se mirent à citer, donc les gens, c'est-à-dire les compagnons qui étaient autour du prophète, se mirent à citer des arbres de la brousse. Et Abdullah dit, au fond de lui-même, il me vint à l'esprit qu'il s'agissait du dattier. Donc le dattier, c'est le fameux arbre qui propose des dattes et des anaqid al-tamr, des dattes. Mais j'eus honte de le dire. Il eut honte de s'afficher en tant que simple petit enfant devant tous ces vieux sages et de venir proposer au prophète et de se considérer comme un rival des anciens. Donc par pudeur, il ne répondit, il n'a pas proposé sa réponse. Ensuite, les gens dirent, dites-nous quel est cet arbre, ô messager. Eh bien, le prophète dit, c'est le dattier, dit-il, rapporté par Al-Bukhari. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire? Elle nous raconte plusieurs leçons, plusieurs morales. D'abord que le croyant, il est inébranlable. Il ne perd pas ses vertus. Il ne perd pas ses fruits. Il ne perd pas ce dont il a acquis comme capitaux de bienfaisance et de source de générosité vis-à-vis des autres. Il est comme le dattier qui ne perd pas ses feuilles. Il est constamment dans la rectitude et dans l'endurance de ce qui est source de bienfaisance. Alors que les autres arbres, eux, sont lunatiques. Un jour, ils vont se vider de leur contenu, de toutes leurs feuilles qui vont tomber. Et une autre fois, ils vont donner des fruits, mais ils ne seront pas constants. Lui, le prophète a voulu dire que le croyant doit être un personnage constant dans la bienfaisance. Vaut mieux donner peu et longtemps que beaucoup et à court terme. Mmh. Donc, khairul umuri adwamuha wa in qallat, nous dit le prophète sallam. Donc, il veut dire, la meilleure des actions, c'est celle qui est endurante, qui est persévérante, qui est dans le long terme, qu'une action qui est sur le court terme, qui est, éphémère et courte dans l'efficacité. Voilà ce que le prophète a voulu nous donner comme leçon lors de ce petite histoire. Deuxième leçon que l'on reçoit aussi, c'est cette pudeur qu'avait Abdullah ibn Omar vis-à-vis des chouyours, le respect qu'il avait pour eux, l'immense, considération et respect. Il n'osait pas, par pudeur, s'avancer comme étant celui qui allait les rivaliser et les, être dans une logique de compétitivité avec des anciens. Regardez comment ces gens, ces jeunes-là, et comment les jeunes en général étaient immensément respectueux à l'égard des anciens. Et en aucun cas, ils cherchaient à froisser leur honneur ou mettre à mal leur émotion ou leur sensibilité. Ils faisaient attention à ménager constamment leur susceptibilité ou leurs émotions. C'est qui ce garnement? Qu'est-ce qui vient nous rivaliser? Ça aurait pu être mal perçu par l'un d'entre eux. Donc par respect pour eux et pour éviter d'en arriver, même s'il avait raison, eh bien il a préféré se taire. Il a préféré garder le silence et dire « Ma'alesh, Anna, je connais la réponse, mais je ne répondrai pas parce que là, je ne suis pas seul, je suis avec des gens. » Et ça, c'est une leçon que nous transmet Abdullah ibn Omar, de prendre en compte la susceptibilité, ménager le tempérament des gens qui sont autour de nous, non pas se comporter comme on voudrait soi qu'on se comporte avec lui, avec toi, mais comment tu dois te comporter avec la personne selon son âge, selon le lien que tu as avec lui, de parenté, etc., etc. Donc tout cela est à prendre en compte. Et donc c'est un travail qui est parfois laborieux et difficile et qui parfois peut provoquer des erreurs, et que tout le travail de sagesse que doit mener le croyant, l'individu en général, et tous ceux qui nous écoutent, c'est de travailler cela. De pas dire, parce que moi, j'ai la vérité, j'ai le droit de lancer la flèche. Non. Nous dit la proverbe, si tu veux lancer la flèche de la vérité, trempe la pointe dans le miel. Philippe, trempe la pointe dans le miel avant de lancer la flèche de la vérité, car il n'y a que la vérité qui...
Ça dépend.
Qui blesse, Philippe. Al-Haqqumur, nous dit en arabe le proverbe. La vérité est amère. Elle est toujours un peu amère, on n'accepte pas. Donc, faire attention, même quand on a une vérité juste, elle n'est pas toujours bonne à dire. Faire
on
attention.
Ne trempe pas la flèche dans le vinaigre.
Voilà, en gros, il y a d'autres leçons que l'on peut tirer de cette histoire, mais je pense qu'on a d'autres choses à évoquer aujourd'hui que de parler que de ce hadith.
Et oui, puisqu'on va parler de la créature du jour, qui sont les arbres, vous l'avez dit tout à l'heure, Imam Abdelali. Lors donc de l'avant-dernière émission, nous avons évoqué les arbres à travers l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à l'avènement du prophète. Mais moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui...
Le prophète Mohammed, on parle de Adam, le prophète Adam jusqu'au prophète Mohammed, donc c'est toute la lignée des prophètes qui nous ont précédés, qui sont racontés effectivement dans le Coran. Oui, en effet, on en a évoqué une bonne partie. En parlant de Younous, on a parlé d'Adam dans le fameux arbre interdit. Ce fameux arbre interdit. Et j'aime beaucoup, moi, dans cette histoire-là, si tu permets que je fasse une petite parenthèse par rapport à ça, c'est quand Dieu, il dit « Falamma dhaqa ash-shajara badat lahuma sawaatuhuma » qu'au moment où ils ont goûté à l'arbre interdit, à l'arbre impur, leur partie intime s'est dévoilée. Dieu, dans le Coran, il le dit. Leur partie
vous l'aviez déjà raconté, cette histoire.
Mais après, qu'est-ce qu'il dit?
Je me souviens bien.
Il dit, mais d'accord, je ne vais pas la reprendre. Je veux bien ne pas la reprendre, même si on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui n'étaient pas là lors de la dernière émission. Mais ce n'est pas grave. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il va dire après Dieu. Il dit dans le Coran, « وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا » Et Dieu les a interpellés, les a appelés. Pourquoi il ne leur a pas dit, tout simplement, en relatant l'histoire, il dit, et Dieu leur dit, tout simplement, pourquoi Alam anhakuma, ne vous avais-je pas interdit de manger de cet arbre? Pourquoi il dit wanadahuma? Pourquoi il dit il les a appelés comme si qu'ils étaient loin? Hein? Normalement, quand tu dis nada, le verbe nada, ça veut dire appeler quelqu'un qui est loin. Et tu dis en utilisant hurufun nida, qui est ya fulan, tu appelles quelqu'un qui est loin. Comment Dieu il dit wanadahuma? Il les a appelés, ya Adam, oh toi Adam, comme si Adam s'était éloigné de Dieu. Eh bien oui, Dieu par pudeur, parce que comme on voyait leur partie intime, Allah a voulu montrer qu'il n'était pas à côté d'eux en train de profiter de leur nudité. Il les a interpellés de loin en leur disant « Ya Adam, alam anhakuma, antilkuma shajara » de ne pas manger de cet arbre-là. Comme si qu'il a voulu respecter leur pudeur. Et combien il est important d'être pudique et réservé, et combien Dieu tient à préserver la pudeur de l'homme. C'est ce qui le distingue des animaux, Philippe. Un animal est nu. Il est dénudé, ça ne le dérange pas. L'homme, lui, s'habille. C'est ce qui le distingue des animaux, et en particulier quand il est croyant et qu'il se considère comme étant un être supérieur à toutes les créatures qu'il y a dans l'univers, c'est parce qu'il est habillé et qu'il ne dévoile pas sa nudité. C'est ce qui fait de nous des êtres civilisés, des êtres éduqués, des êtres qui ont un lien avec Dieu. Et quand tu es dénudé, Dieu forcément, et c'est ce qu'il nous montre dans ce verset-là, s'éloigne de nous et il nous appelle de loin. Il ne nous parle plus comme si qu'il était à côté de nous. « Yaqulu lana yukallimuna » Non, « yunadina min ba'id » Il nous parle de loin. « Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma » Voilà ce que le message de ce verset nous dit. Faites attention, soyez toujours dans cette logique de pudeur, de retenue. Enseignez-la à vos enfants de ne pas se dénuder, de ne pas prendre à la légère la sacralité de leur corps et de leur partie intime.
Bien, on va continuer à parler des arbres dans un instant, Imam Abdelali. Vous pourrez poser vos questions à l'imam tout à l'heure dans la troisième partie de cette émission au 01 53 48 3000 puisque c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, l'islam au présent, rendez-vous tous les vendredis, 10h, 11h pour parler d'islam sur Beurre FM aujourd'hui avec l'imam Abdelali Mamoun. Alors j'aimerais connaître et comprendre avec vous, Imam Abdelali, ce matin, dans quelle mesure le Coran utilise l'arbre pour faire passer son message à l'humanité?
Il l'utilise tout simplement parce qu'il fait partie de notre environnement, il fait partie de notre nature, de la nature que Dieu a créée autour de nous pour nous servir. Aujourd'hui, il serait très compliqué même de construire des édifices en fer sans utiliser le bois comme charpente ou comme coffrage pour les dalles de sol, pour les murs, etc. On a besoin de ce bois, de cet outil nécessaire qui est cette matière qu'on appelle le bois et qui ne peut être extrait que des arbres. Et Dieu, bien sûr, nous met en garde contre cet abus que aujourd'hui l'humanité, succombe est excessif quant à l'utilisation de cette matière qui est le bois à travers la déforestation. On est en train de vider la terre de son poumon, puisque il faut pas oublier que c'est grâce l'oxygénation des arbres la nuit, puisqu'il s'agit bien c'est le jour. C'est le jour où est-ce que les arbres transforment le dioxyde de carbone en oxygène. Ils consomment. Et la nuit, l'inverse. Et c'est pour ça qu'il est déconseillé de dormir sous un arbre. Parce que la nuit, elle consomme beaucoup d'oxygène. Bon, bref. Pour revenir à nos moutons, effectivement, le Coran évoque énormément de paraboles dans lesquelles il utilise l'arbre. Et notamment, il cite un certain nombre d'arbres, de noms d'arbres. Vous avez le zakoum, qui est l'un des arbres de l'enfer, et qui est une épreuve que Dieu évoque notamment dans la sourate Al-Isra, verset 60, où il dit, alors je vais le dire en arabe, وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir. Quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit. C'est un arbre qu'il appelle Shajarat Mal'ouna, et qui s'appelle aussi dans un autre verset Shajarat Zakoum, c'est le nom de cet arbre-là. C'est un arbre maudit qui, quand on consomme ses fruits, il ne rassasie pas la personne qui le consomme, mais au contraire, augmente son châtiment et sa punition. Qu'il subit dans les entraves de l'enfer. Mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression et leur désaveu de l'islam. Donc dans cette sourate aussi, sourate Ad-Dukhan, la sourate la fumée, il dit Allah Azza wa Jalla, inna shajarat az-zaqoum ta'amul athim. La nourriture, certes l'arbre de Zakoum sera la nourriture des grands pécheurs. Ta'amul athim, kal muhli yaghli fil butun. Comme du métal en fusion, elle bouillonnera dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Car Aliyul Hamim nous parle, Khudouhu fa'atilo, donc Dieu évoque justement ce châtiment, ces châtiments qu'ils subiront, ces tourments qu'ils subiront dans l'enfer. Et donc pour cela, Allah Azza wa Jalla nous parle de cet arbre maudit qui s'appelle Zakoum, et qui est une épreuve, une mise en garde, une manière d'effrayer, de susciter un sentiment qui s'appelle la peur, la crainte de Dieu et la crainte du châtiment de Dieu. C'est aussi un moyen pour Dieu de rappeler ses serviteurs à lui et pour leur dire, si vous ne voulez pas m'aimer, si vous ne voulez pas espérer de moi une récompense, craignez au moins ma colère, craignez au moins mon courroux, craignez au moins mon châtiment dans l'enfer. Et donc Dieu nous parle dans le Coran de ces châtiments, et à maintes reprises, il nous évoque ces manière qu'il procède, et notamment en utilisant cet arbre qu'on appelle Shajarat Zakoum, qui est l'arbre maudit de l'enfer. Dans une autre sourate, qui est donc notamment Allah Azza wa Jal nous parle de cette parabole qu'il fait en utilisant l'arbre pour parler de lui. J'aime beaucoup cette parabole parce qu'elle est pleine de profondeur. Il dit, il veut se décrire, il veut dire aux gens, voilà qui je suis moi, Dieu, qui je suis, Allah, moi, qui je suis. Il dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran Karim, Allahu nuru as-samawati wal-ard. Allah, il est Seigneur et la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe et dans un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni. Un olivier, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Donc là, il dit que tout cela n'est qu'une parabole pour montrer combien la grandeur de Dieu et sa lumière elle est à l'origine, même avant d'être déclenchée, c'est-à-dire qu'on brûle la source, le carburant de cette lumière. Déjà, elle est source de lumière. Apparemment, il semblerait que on aurait découvert que il y aurait des ions de lumière dans l'huile d'olive avant même qu'elle soit utilisée comme. Oui, apparemment, ça a été prouvé récemment. On a découvert que l'huile d'olive avait des caractéristiques qui seraient elles-mêmes avant même d'être source de carburant déjà une lumière. Donc, Allah Azza wa Jalla nous parle de lui. Il nous parle sous forme de parabole pour nous décrire combien sa lumière est grande et qu'il guide vers sa lumière qui il veut. Et pour terminer, je terminerai par cette dernière parabole où Allah Azza wa Jalla compare les bonnes paroles et les mauvaises paroles avec un arbre. Pour les bonnes paroles, il dit que c'est un arbre bien enraciné et qui donne beaucoup de fruits et dont la ramure s'élance dans le ciel. Et pour ce qui est de l'arbre mauvais, de la parole mauvaise, excuse-moi, il la compare à un arbre déraciné sur la surface qui ne donne aucun fruit et qui, au premier coup de vent, est balayé comme une petite botte de paille. Donc je lis le verset en arabe.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole ou sous forme de parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Donc là, il parle effectivement de cette fameuse parole dans laquelle toute personne sera examinée quand il sera dans sa tombe. Après qu'il aura donné son dernier souffle, la première chose que Dieu fera, c'est d'envoyer deux anges, Munkar et Nakir. Munkar et Nakir sont deux anges de la tombe qui interrogent et examinent par la parole les propos et la réponse du serviteur de Dieu. Il leur dit, « Man Rabbuk, qui est ton Seigneur ?» Si Allah Azza wa Jalla a affermi le croyant dans la foi, eh bien il va répondre correctement, il dira, « Rabbi Allah, mon Seigneur est Dieu. » Ils lui diront, quel est ton livre qui t'a été révélé? Quel est le livre qui t'a été révélé? Fayaqulu al-Qur'anu kitabi. Ou bien dans une autre version, il dit, quelle est ta religion? Il dira, din l'islam. La religion est l'islam. Et ensuite, en troisième position, et que dis-tu sur l'homme qui vous a été envoyé? Ma taqulu fil rajul alladhi bu'itha fikum. Que dis-tu sur cet homme qui vous a été envoyé pour vous transmettre cette religion et l'existence de Dieu et l'obligation de croyants de se soumettre à lui? Il dira, Innahu Muhammadun Rasulullah, c'est Muhammad l'envoyé de Dieu. Et s'il répond correctement à ces questions-là, tout le reste qui suit ne sera que aisance, facilité, récompense et salut. Alors que s'il ne répond pas, tout ne sera derrière que châtiment, douleur et souffrance. Voilà pourquoi il est important que dans nos invocations, on dise à chaque fois Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ô mon Dieu, afferme-nous notre parole dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est-à-dire après la mort, au moment où nous serons interrogés dans notre tombe. Et donc voilà comment Allah Azza wa Jalla utilise cette parole juste comme un arbre qui est source de bienfaits, et combien il utilise la mauvaise parole comme étant un arbre qui n'apporte rien, qui est déraciné et qui est balayé d'un coup de vent, au premier coup de vent. Et il est très important donc d'être soi-même une source de bienfaisance par les mots et d'être porteur de messages toujours positifs. Hein, même les psychologues le disent. Faut jamais parler, les pédopsychologues, ne parlez jamais à son enfant de manière négative. Toujours être positif. Jamais l'insulter. Tu comprends rien. T'es un hmar, t'es un âne, t'es ceci. Les insultes, les dénigrements, c'est très important. Mes chers auditeurs, auditrices, les parents surtout, moi je parle aux parents qui éduquent leurs enfants, jamais dénigrer son enfant par des propos négatifs. Tu ne comprends rien, tu comprendras jamais rien, tu seras un bon à rien, etc. Tout au long de sa jeunesse, il n'entend que ça, et finalement il le sera. Il sera comme vous l'avez décrit. Donc très important, toujours être positif. Tu peux faire mieux, je sais que c'est bien ce que tu as fait, mais tu peux encore faire mieux. Voilà, toujours avoir une parole bonne et positive avec son entourage et notamment ses enfants. Voilà ce que j'avais à dire concernant les arbres.
Et on continuera on passera à en parler toute cette année puisqu'on s'intéresse à l'environnement. Imam Abdelali, je rappelle que tout à l'heure vous répondrez aux questions en direct des auditeurs de Beurre FM. Donc si vous avez des questions à poser à l'imam, vous pouvez appeler le standard 01 53 48 3000, et on s'intéresse également dans un instant à une question d'actualité puisque vous savez c'est le début d'année, traditionnellement on se souhaite une bonne année et nous verrons Imam Abdelali si effectivement c'est voilà, c'est une chose qui se fait de souhaiter une bonne année à son entourage, à ses voisins. 01 53 48 3000, on revient dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ça me présente jusqu'à 11h. Imam Abdelali Mahmoud, vous êtes avec nous. On parle de cette polémique tous les ans. Voilà, c'est le début de l'année. La polémique qui revient sur le fait de souhaiter une bonne année à notre entourage. Alors,
mais écoutez, effectivement, il existe un ensemble d'imams en France et à l'étranger, notamment dans le monde musulman, bien sûr, qui s'opposent au fait qu'un musulman puisse souhaiter une bonne année parce qu'elle correspond avec une fête chrétienne ou avec un rituel chrétien. Et pour eux, ça serait comme féliciter quelqu'un qui boit de l'alcool, par exemple, ou qui commet un péché, en lui disant mes meilleurs vœux pour cet alcool que tu bois, ou mes meilleurs vœux pour cette fornication, ou cette pratique de haram que tu fais, puisque célébrer une fête chrétienne serait pour eux un plus grand péché que de boire de l'alcool même, ou de manger du porc, ou de forniquer, ou d'autres péchés. Donc voilà comment l'argument est tenu sur un mimbar de ces imams-là. Il y en a même en France qui vont vous le faire, ça. Par contre, quand vous posez la question à cet imam, ta paye, tu la reçois selon le calendrier musulman ou selon le calendrier chrétien ? Il dit, ah ben non, selon le calendrier chrétien. Ah ben, je dis, ben non, tu devrais en principe ne pas accepter de toucher la paye le 31 du mois chrétien. Tu devrais attendre, tu dis, ah non, non, moi, tant que c'est pas la fin du mois musulman, je touche pas à ma paye. On peut rentrer dans un jeu comme ça et de dire que ben on va réfuter toutes les fêtes, même en Algérie, parce que c'est là-bas où j'ai entendu à la fin de l'année, parce que c'est là-bas où j'étais, des imams condamner ceux qui se félicitent, qui se souhaitent une bonne année. Mais par contre, quand vient le 1er novembre, qui est la fête nationale, ou le 5 juillet, qui est une fête nationale aussi en Algérie, personne ne vient dire ah ben non, c'est un calendrier chrétien, on doit pas calculer, mais on doit essayer de retrouver la date d'un point de vue égyrien pour savoir si à quel moment il y a eu le début de la campagne de révolution. Le 1er novembre, ça correspondait en 1954 à quel jour du calendrier musulman, et le 5 juillet 1962, la date de l'indépendance, ça correspondait à quoi? C'est complètement absurde. On est dans la bêtise et on est dans l'hypocrisie aussi, Philippe. Je suis désolé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, souhaiter une bonne année, c'est comme souhaiter un bon mois, c'est comme souhaiter un bon week-end, c'est comme souhaiter un bon jour, une bonne journée à quelqu'un, ou une bonne soirée à quelqu'un. C'est souhaiter, montrer de l'affection à une personne de notre entourage pour lui vouloir, lui souhaiter le bonheur dans le temps qu'il va avoir à vivre dans le futur. Un futur court terme, une journée par exemple, bonjour, bonne journée, ou à moyen terme, un bon week-end, une bonne semaine, un bon mois, ou une bonne année. Écoutez, il est où le problème? Alors, on va me dire, mais pourquoi il a choisi le début du calendrier grégorien pour le féliciter? Parce que nous vivons dans une société qui a décrété que le temps serait géré par le calendrier grégorien. Et c'est comme ça. Ça fait partie de la culture et non pas de nos convictions. Je ne trahis pas ma foi. Je ne transgresse pas à la volonté divine en souhaitant une bonne année, même grégorienne ou musulmane. Quand vient le nouvel an musulman aussi, on se souhaite une bonne année. Et bien, même pour ça, ils vont vous dire, non, le prophète, il a jamais souhaité. Ben oui, c'est normal, le calendrier musulman, il n'a jamais existé, même à l'époque du prophète. Le calendrier égyrien a été décrété et légiféré par le calife Omar, à l'époque du califat de Omar. Donc le prophète n'a jamais fait de calendrier. Donc ça serait une innovation, une bid'a détestable, comme je l'ai dit récemment. Donc non.
On
non,
ne revient sûr. Pas sur ce
non,
terme,
non, Imam Abdelali, s'il vous plaît. J'aime bien cette expression-là, bid'a détestable, elle me fait rire. parce que je ris de moi-même, Philippe, c'est moi qui ai tenu cette expression.
Oui, moi, j'ai rien dit.
Je manque de personne.
Je ne me permettrai pas de, de rire de vous-même.
Mais allez, c'est pas
la bonne parole.
C'est de moi-même, ça passe. Justement, dans un bel échange avec Haroun, tu sais, l'humoriste, j'ai fait, ceux qui veulent le retrouver sur Internet peuvent le retrouver, j'ai fait un bel échange sur la notion de l'humour en islam. Et que c'est très bien de rire, et ça n'est pas interdit, que c'est quelque chose de naturel, qu'il faut joyeux et être joyeux, et que la tristesse a toujours été condamnée par le prophète, et toujours été combattue par le prophète et le message divin. Donc soyons joyeux, soyons heureux, et souhaitons-nous à chaque occasion une bonne année, un bon avenir, une bonne réussite, beaucoup de santé, beaucoup de succès. Et je vous le dis à vous toutes et à vous tous, les auditeurs, auditrices, mais aussi ceux qui vont nous regarder sur le site de Beurre FM à travers cette vidéo qui est en train d'être enregistrée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Mes meilleurs vœux de réussite, Inch'Allah, pour cette année 2020. Qu'Allah vous comble de ses bienfaits, vous accorde la félicité, et le bonheur et la prospérité. Voilà, amin, amin. C'est ce que j'avais à dire.
Salamat Taoun Barou.
Salamat, comment t'as dit ?
Taoun Barou.
Taoun Barou, bonne année.
Voilà. Douapoulou.
Ça, c'est en indonésien.
Ouais.
Là où il y a 260 millions de musulmans.
Oui.
Et là-bas, tout le monde dit bonne année.
Ah non, alors, non.
200
alors,
combien ?
Non, 120. Non, il y a certaines îles où il y a des polémiques qui reviennent tous les ans, comme partout, notamment à l'occasion de Noël. Non.
Oui, il y en a qui ne veulent pas.
Non, les polémiques, elles existent partout, y compris en Indonésie.
Mais vous allez avoir les mêmes polémiques chez les Chinois qui fêtent l'an chinois, à la date du calendrier chinois. Vous allez avoir chez les Juifs aussi une polémique concernant le fait qu'ils aient Rosh Hashanah, Ras Hashanah, le nouvel an juif. Ou dans lequel certains vont vous autoriser. Moi, écoutez, je respecte tout le monde, je respecte tous les avis, mais je fais partie de ceux qui contribuent à intégrer l'islam dans le paysage français et de faire en sorte que chaque musulman puisse vivre paisiblement sa foi et de lui dire, cela ne trahit pas tes convictions que de souhaiter une bonne année à un non-musulman ou même à un musulman, ou même à ton entourage, quel que soit le moment de l'année, pour lui souhaiter cette bonne année. Voilà.
Allez, 01 53 48 3000. Le standard est à votre disposition si vous souhaitez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. Et c'est Sherazade qui est avec vous. Sherazade, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour
Sherazade.
Bonjour, salam alaykoum.
Bonjour, alaykoum salam, imam, et bonne année.
Bonne année à vous aussi.
J'ai écouté votre intervention. Je voulais juste souligner qu'en tant que musulmane, moi je fais toutes les fêtes. Nos fêtes religieuses, je fête Noël avec mes enfants, je suis née le 25 décembre, c'est pas par rapport
donc
à mon anniversaire.
Ouais, bah pourquoi pas.
Mais,
et là aussi, c'est une histoire encore à polémiquer. Pourquoi on ne devrait pas fêter l'anniversaire ? J'ai envie de faire une fête à mon anniversaire de mes enfants. Il est où le problème ? Pourquoi tous les imams disent c'est haram ? C'est pas haram de fêter.
Non, tous les imams ne le disent pas.
Oh, la plupart.
Après, moi,
beaucoup, en tout cas beaucoup.
Surtout pour Noël, parce que je tiens à souligner que nous, en tant que musulmans, on croit à notre prophète. Et un bon musulman, il croit à tous les prophètes.
Oui, mais croire à tous les prophètes ne vous permet pas, ma sœur, de célébrer des rituels non musulmans. Ça, par contre, c'est proscrit.
Non, c'est pas célébrer.
Bah, attendez, quand vous fêtez Noël, c'est une forme de célébration. Il y a une forme de célébration.
Non, moi, c'est par rapport aux enfants, parce qu'on habite en France, donc tout le monde a des jouets. Bah, on veut que nos enfants ne soient pas privés.
Est-ce que vous leur faites aussi des jouets pour l'Aïd al-Fitr ou l'Aïd al-Adha?
Bien sûr.
Ah, bah, c'est très bien.
Je suis le aîné.
Non, des cadeaux, des jouets de valeur.
Ah oui.
Pas le aîné, les petits gâteaux.
Pour l'Aïd, c'est la tenue.
Philippe, il aime bien les macroutes. Philippe, il aime bien les macroutes, les jours de l'Aïd.
Nous, c'est la tenue, les gâteaux et les cadeaux.
Ah, c'est bien. Et les bonbons aussi, les bonbons. Isla Délice, comment ça s'appelle là ? Délice, Dard des Délices. Dard des Délices qui offre des bons cadeaux.
Dans la vie, et puis voilà.
C'est bien. À la Koulihal, je respecte votre choix aussi, même si je considère que Noël, c'est une fête qui est purement chrétienne et célébrer un rituel non musulman doit être.
Mais qu'est-ce que vous appelez célébrer ? Est-ce que si vous offrez des cadeaux à vos enfants.
Si vous allez à l'église.
Toute l'ambiguïté vient du mot célébrer. Si vous offrez des cadeaux le 25 décembre parce que tout le monde a des cadeaux, est-ce que ça veut dire célébrer ?
Ouais, mais dans la tête du gamin, c'est quoi le message qu'on transmet? Parce que en même temps, il y a un message derrière. Si c'est pour dire aujourd'hui c'est la naissance de Jésus, donc je t'offre un cadeau en hommage à Jésus qui est né, le Fils de Dieu qui est né aujourd'hui, là il y a problème. Il y a problème. Maintenant, si c'est simplement pour offrir un cadeau parce que c'est une opportunité parmi d'autres d'offrir un cadeau et que ça se passe, il se passe rien dans la tête du gamin, il y a OK, d'accord, je veux bien. Mais le problème, c'est qu'il y a un message derrière.
Non, mais nos gamins, ils savent très bien qu'on est des musulmans, qu'on est des pratiquants. Ils nous voient faire la salade et tout, mais...
D'accord, OK, je veux bien. Mais néanmoins, là, par contre, je peux vous dire que il y a pratiquement consensus sur le fait, pour éviter faire barrage à l'incitation à ne pas se s'assimiler à, et même parfois pourquoi pas il y a des gens qui s'égarent par l'émotion, par le côté émotionnel, à suivre d'autres, voilà, pour préserver la foi de ses enfants, il faut faire attention. En tout cas, si vous êtes sûr que l'éducation que vous transmettez à vos enfants, c'est de faire d'eux des bons musulmans, moi, je vois aucun inconvénient. Si par contre, il y a un risque, faites attention. Ouais, voilà.
Ouais. D'accord. Merci beaucoup.
Vous en prie.
Vous êtes une bonne continuation.
Merci, Sherazade. 01 53 48 3000. Vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali jusqu'à 11h. Mais vous savez, souvent, quand on a des cadeaux le 25 décembre, on fait plutôt de vous des bons consommateurs. Voilà. C'est quand même devenu beaucoup des fêtes de commerçants. Faut dire la vérité. Là. C'est une fête consumériste avant d'accord. tout aujourd'hui.
Oui, si tu veux, Philippe, il n'y a pas de problème. Mais ça fait pas de, ça fait pas de nous plus des Français que de fêter ou de ne pas fêter Noël. Regarde, toute la communauté juive de France ne fête pas du tout Noël, et ça fait pas d'eux des gens moins français que nous, ou que les autres Français, qui sont eux chrétiens. Non, je pense que, voilà, la koumdine ou koumoualiadine, à vous votre religion, à moi la mienne, je n'adore pas ce que vous adorez, et moi je n'adore pas ce que vous n'adorez pas ce que moi j'adore, ce que dit dans Sourate al-Kafirun. La koumdine ou koum, à vous votre religion, avec vos rituels, et à moi les miens, et je vois pas où le problème. Si moi j'ai pas envie de fêter Noël, moi en tout cas je fête pas Noël, je fête même pas le jour de l'an. Donc,
alors on a Mohamed qui est avec nous. Mohamed, bonjour et bienvenue.
Ouais,
allô, salam alaikum. Wa alaikum
salam. Bonjour à tout le monde. Et là j'ai une question à vous poser. Voilà, je sais que le ramadan elle approche et j'ai ma femme qui est enceinte, elle va accoucher au mois de juillet si Dieu le veut.
Mm-hmm. Donc il est peu probable qu'elle ne va pas faire le ramadan, oui, tout à fait.
Mm-hmm. Pardon ?
Elle ne va pas faire le jeûne du ramadan, parce qu'elle est...
Je le sais. Mm-hmm. Mais en fait, au niveau de l'accouchement, vous savez, logiquement, elle doit accoucher au mois de juillet.
Mm-hmm.
Mais le ramadan sera fini, et mm-hmm. du coup, la zakat, comment ça se passe ? Il faut la donner ou pas ?
Alors, tu parles de zakat al-fitr ?
Voilà.
Attention, parce qu'il ne faut pas confondre le troisième pied de l'islam qu'on appelle zakat al-mal. C'est sur l'argent thésaurisé qu'on a mis de côté pendant un an et qui a atteint le seuil minimum zakatable, qui est d'environ 4000 euros aujourd'hui, et que si on a plus de 4000 euros et qu'on l'a laissé dormir pendant un an, on va payer la zakat el-mal. Zakat el-mal. Là, tu me parles de zakat el-fitr, qui est une petite somme équivalent à 7 euros voilà. ou en denrées alimentaires, par exemple, que l'on va donner aux pauvres avant la fin du ramadan. Et voilà, cette zakat-là, tout le monde est concerné dans votre foyer. Ceux qui jeûnent d'accord. comme ceux qui ne jeûnent pas. C'est-à-dire même d'accord. l'enfant qui est dans le ventre de ta mère, de sa mère, excuse-moi, il est recommandé pour vous de vous acquitter de la zakat pour cet enfant qui est dans le ventre de sa mère. Je dis bien recommandé, d'accord. pas obligatoire.
D'accord.
Mais pour vous c'est obligatoire. C'est-à-dire pour vous, votre femme et les autres enfants de votre foyer, qu'ils jeûnent ou non, vous devez vous acquitter de la zakat. Donc le jeûne n'est pas une condition qui oblige le croyant à payer la zakat. C'est pour tout le monde. Vous la versez aux nécessiteux. En denrées alimentaires, de préférence si ça leur est utile. Si l'argent est plus utile pour eux, bah vous leur donnez l'argent.
D'accord, merci beaucoup.
Voilà, on va en reparler pendant le ramadan. De toute façon, on aura l'occasion.
Merci.
Allez, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Comme on dit, on n'a jamais été aussi près du ramadan, mais on a quand même un petit peu de temps quand même aussi.
Mais c'est bien de préparer, Philippe. Moi, j'aime bien qu'on n'arrive pas à la dernière minute.
Trois mois et demi encore, au moins, avant.
Oui, mais c'est bien. Préparer à l'avance, c'est bien.
Alors, Hassina est avec nous. Hassina, bonjour et bienvenue.
Allô, oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Oui, ma question est le hadith de Tawban an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui la'alamanna qawman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati hasanatin ka'amthali. Vous connaissez ce hadith?
Continuez de le réciter.
D'accord.
Ka'amthali al-jibal, zid.
Voilà, tihamatan bayda fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthuran. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا
جليهم
جليهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنكم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
أو كما قازم نعم نعم نعم,
نعم. Je voulais que un jour vous nous faites un sujet sujet sur ce hadith. Il est très très important à mes yeux. Très important. On est peut-être on est.
Alors laissez-moi pour qu'on puisse donner la parole aux autres. Permettez-moi de répondre et d'expliquer aux gens de quoi il s'agit. Ce hadith là, il nous parle de d'une prophétie du prophète Azam qui dira que il y aura des gens le jour de la résurrection qui viendront avec des bonnes actions, c'est-à-dire des bons points, des hasanat, hein, de la taille des montagnes de Tihama. Les montagnes de Tihama, c'est l'équivalent, c'est les montagnes, la chaîne de montagnes de Taif. Donc c'est quelque chose d'énorme, en tout cas du gigantesque de hasanat. Mais que Dieu va effacer, il ne va pas prendre en considération, il ne va pas les tenir. Et là, on dira au prophète, mais qu'ont-ils fait ces gens-là pour perdre leur hasanat aussi facilement alors qu'ils étaient, ils sont venus avec autant de hasanat. Il dira le prophète que ce sont des gens quand ils s'isolaient ils étaient dans le privé, ils transgressaient les injonctions divines, ils désobéissaient, ils devenaient des rebelles. Donc c'est un petit peu des hypocrites qui avaient une double facette. Devant les gens, ils étaient des saints et des gens bienfaiteurs, etc. Et dès qu'ils étaient seuls, ils se mettaient à commettre des actes de malfaisance ou malveillance, etc. Ils devenaient des malfaisants. Donc c'était finalement des malfaisants qui en apparence faisaient des bonnes actions, et Dieu en apparence va leur faire de la même manière, il va les ressusciter en apparence avec une grande quantité de hasanat, et qui finalement va dévoiler leur vraie nature, qui fait qu'ils ont des cœurs mauvais, des cœurs, on va dire, encrassés par le vice et par les péchés, et il va dévoiler leur intimité, eh bien, en disant, regarde, moi j'ai vu, qu'est-ce que tu faisais chez toi, qu'est-ce que tu transgressais comme loi divine, et donc tu n'es qu'un hypocrite. Et voilà, donc toutes tes bonnes actions, je les jette à la poubelle, quoi. Je les prends pas en considération. Voilà en gros ce que nous dit la sœur. Effectivement, inchallah, pourquoi pas. On aura l'occasion peut-être de revenir sur ce hadith là qui me semble effectivement très pertinent. Merci beaucoup pour votre remarque.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Hassina, Imam Abdelali.
Oui, marhaba, urtil kalim, Allah jazakum bi khair. Merci
Hassina. Alors, est-ce qu'on a question le temps
une petite dernière demi-question.
Ouais, enfin, le problème, c'est que si je vous dis deux minutes et que vous en prenez quatre,
promis, je vais vite. Allez, vas-y.
Alors, on a Sabrina qui est avec nous. Sabrina, bonjour et bienvenue, Sabrina. Sabrina.
Allô?
Oui, allez-y, Sabrina.
Oui,
bonjour.
Salam alaikum. Je me permets de vous appeler pour intervenir juste auprès de la personne qui a appelé en parlant de Noël. Fêter Noël.
Oui.
D'accord.
Donc là, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Vous voulez faire une remarque?
Oui, simplement, parce qu'il faudrait être clair et essayer de préciser, vous, l'imam.
Donc vous voulez faire une fatwa à la radio?
Là, monsieur, une fatwa.
Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez?
Non, aucun problème, je vais vous
Parce que normalement, c'est une séance question, pas une séance remarque.
Allez-y. Juste ça, simplement lui dire à cette personne qui est peut-être ignorante ou j'en sais rien, comme nous tous, on l'a été un certain temps. Avec nos enfants, j'ai quatre enfants, ils sont grands maintenant. Donc, lui dire que c'est une fête païenne et non pas chrétienne, à la base.
Oui, elle a des origines païennes, effectivement, puisqu'on parle, de l'arbre,
elle est païenne et les gens croyaient dans le soleil et le 25e jour de décembre,
c'est le soleil d'hiver.
Commence. Voilà, il va revenir, là, on va gagner 10 minutes de soleil.
Ouais.
Et le roi Constantin...
Mais ça a été repris, on en a parlé dans une émission interreligieuse, avec le prêtre qui nous a expliqué qu'effectivement ça a été repris dans la tradition chrétienne. Tout cela a été repris dans la tradition chrétienne.
Non, le roi Constantin, il l'a inclus
pour les chrétiens.
Donc c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens que quoi qu'il en soit, on ne fête pas, une fête religieuse, chrétienne. On est là, on croit avec tous les trucs, mais simplement, c'est une consommation de biens. Les gens sont contents, ils font la fête, tout ce qu'on a envie, tout ça, on se retrouve. Mais elle ne fait pas de mal. Simplement, il faut lui expliquer.
En tout cas, que chacun fasse ce qu'il veut, madame. Allez, voilà, Inch'Allah. Barakallahu fik. Je laisse mon numéro pour les appels téléphoniques. Le 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00.